Alors, les petits propriétaires étaient majoritaires ou le système de métayage était majoritaire?
Ben, il y avait beaucoup plus de métayers qu'il y en a maintenant. Maintenant, il y en a très peu. Parce que avant 1939, voyez-vous, les gens étaient embarrassés de la terre. Personne ne voulait en travailler de la terre. On ne pouvait pas en travailler parce qu'il n'y avait que les bœufs ou les vaches, n'est-ce pas, pour travailler. Et puis, il y avait eu la saignée de 14-18, n'est-ce pas, qui avait tué beaucoup de jeunes, n'est-ce pas. Et alors, avant 1939, ceux qui avaient de la terre s'en débarrassaient parce qu'ils n'arrivaient pas à la faire travailler dans des conditions. Tandis que maintenant, n'est-ce pas, tout le monde veut la terre. C'est la raison pour laquelle, il y a d'autres raisons, mais enfin, c'est la raison pour laquelle elle a un prix qui va devenir exorbitant. Vous voyez, on parle de 2 millions d'hectares, et encore, il y en a dans la vallée, il y en a qui s'est vendu beaucoup plus.
Oui. Et c'est depuis 10 ans seulement, ça?
Oui, ce sont les Nord-Africains qui ont commencé, voyez-vous. Ce sont les Nord-Africains qui ont commencé, quand ils sont arrivés, ils ont regroupé des propriétés et ils ont fait une culture un peu différente de celle que l'on faisait ici. Alors c'est eux qui ont commencé à acheter des propriétés. Et puis ça s'est amplifié, et maintenant la mécanisation est là, parce que quand on achète une moissonneuse batteuse, il faut plus de 10 hectares ou de 15 hectares pour la rentabiliser. Les tracteurs, c'est la même chose. Maintenant, dans une propriété de 60 hectares, vous avez des propriétés de 100 hectares maintenant, il faut 2 ou 3 tracteurs. Donc tout ça, il faut le rentabiliser. Moi, je connais des gens qui n'avaient que 20 hectares il y a 50 ans, et qui maintenant en ont 100, soit à eux, soit en fermage.
Quelles étaient les structures sociales que vous les connaissez bien aux alentours de la Révolution, enfin au moment où ça a moins changé, c'est-à-dire par exemple, quels étaient les gens qui travaillaient à la tâche, les gens qui étaient saisonniers, les gens qui étaient maître-valet, la différence entre maître-valet et...
Ah oui.
Et après, qu'est-ce que c'était les bordes, les grands bordes, le système?
Oui, c'est-à-dire... Oui, ça, moi, je ne l'ai pas trop connu, mais enfin...
Les vaquets, les bouets...
Oui. Oui, il y avait... Le vacher, par exemple, mais le vacher, ça n'existait que dans les... À Comont, par exemple, il y en avait un. À Comont, il y en avait un, parce que... À la Grand Borde, je ne sais pas s'il en avait un, la Grand Borde, vous êtes tous allés chez la Rosée. Vous avez vu les tables qu'il y a, c'est immense, ça, c'est très grand, n'est-ce pas? Alors là, évidemment, je comprends qu'il fallait un homme spécialement, un vacher, n'est-ce pas? Spécialement pour s'occuper des bestiaux, n'est-ce pas? Tandis que dans les autres propriétés, on faisait ça avec le reste, n'est-ce pas? Et puis alors, la différence qu'il y avait, les estivandiers, il y avait aussi, en patois, les estivailles. Les estivandiers, je crois, en français. Alors cela n'était que pour l'été. Pour l'été, alors on les payait en nature et en argent. Mais beaucoup plus en nature qu'en argent, je crois. Parce que le maître valet, lui, le maître valet, à Villeneuve, il y en avait des maîtres valets, ça je l'ai connu. On leur donnait le logement, n'est-ce pas, puis un petit carré de terre, et puis on les payait aussi en nature et en argent. Alors en principe, il n'y avait que... Le mari qui était salarié, en somme, tandis que la femme ne l'était pas, ou elle pouvait y aller, mais on la payait soit à la journée, à la journée.
Et qu'est-ce que c'était la Grande Borde? Quelle différence il y avait entre la Borde et la Grande Borde?
Ben, la Grande Borde, parce que la Grande Borde appartenait au Comte Biron de Saint-Blancard.
Au Comte Biron?
Oui, au Comte Biron de Saint-Blancard. Et alors. Elle était beaucoup plus étendue qu'elle n'est maintenant, n'est-ce pas? Elle partait de la Save, elle allait jusqu'à la route de Cazaux. Et la route de la Bastide. Alors vous voyez le carré que ça faisait, n'est-ce pas? Le Béjouet aussi faisait partie de cette propriété. Et puis ça s'est vendu, et alors ceux qui l'ont acheté, les Larosés, étaient justement métayers à Clarence, là, chez M. Troyes. Et ils ont envoyé, ils avaient quand même quelques argent, mais enfin, ils avaient dû emprunter sûrement. Seulement la guerre de 14 est venue, vous comprenez? C'est comme cette fois-ci. Ceux qui avaient emprunté avant ont eu de la chance parce qu'ils ont payé avec. Ils se sont libérés quoi facilement.
Est-ce qu'on arrive à avoir une idée à travers les documents que vous avez étudiés de la répartition des pouvoirs et des rôles dans les familles, enfin dans la façon de vivre des fermiers ou des agriculteurs. C'était très patriarcal ou c'était pas très patriarcal comme système ?
Si, c'était patriarcal, c'était l'autorité du père était quand même prépondérante, n'est-ce pas ? Je crois qu'elle a diminué un peu maintenant, enfin ça je ne sais pas trop, mais je crois qu'elle a un peu diminué. Mais ma mère me racontait, ma mère était d'une commune rurale, n'est-ce pas ? Et son père était assez âgé, puisqu'il s'était remarié, et il devait avoir 50 et quelques années quand ma mère est née. Donc alors, vous voyez, il était un peu de... ça remonte assez loin, assez haut. Mais elle lui disait « vous » d'ailleurs à son père, elle ne le tutoyait pas. Et puis ce qu'il disait, enfin, elle m'a souvent dit que il prenait, comment dirais-je, c'était un conseil de famille, n'est-ce pas ? Quand il voulait décider quelque chose, c'était un conseil de famille. Et le père donnait son avis, évidemment. Je crois qu'il était quand même assez intelligent. Il laissait parler son fils et sa fille, mais enfin, c'était lui quand même qui décidait, qui donnait le dernier mot, je crois.
Mais dans toute la région, les femmes travaillaient dans les champs, quand même.
Ah oui, oui, les femmes, à l'heure actuelle, n'est-ce pas, il n'est pas question que les femmes aillent au cercle ou autre, n'est-ce pas, ça se fait même mécaniquement. Mais les femmes allaient travailler, oui, dans les champs. Oui, elles travaillaient dans les champs. À l'époque de la moisson, de la fenaison, de la moisson par exemple. Moi, je n'ai jamais vu moissonner à la faux. Mais j'ai vu moissonner avec le petit appareil, comme on disait. C'était là une faucheuse, n'est-ce pas, avec un tablier qu'on relevait. Quand la javel était assez volumineuse, le tablier se rabattait, la faucheuse avançait, elle laissait le paquet, la javel en place, n'est-ce pas. Et puis alors après, il fallait réunir ces javels, et les femmes faisaient les liens, elles les mouillaient, si vous voulez, soit avec... Ici, on n'employait pas trop de seigle, mais dans certaines régions, on se met du seigle pour faire des liens. Tandis qu'ici, on le faisait avec la paille de blé, et on la mouillait pour qu'elle soit plus résistante. Et puis les hommes, avec une cheville, ils faisaient la gerbe, quoi. Et puis après, on la mettait en dizaine. Alors tout ça, c'était les femmes qui le faisaient. Avant qu'il n'y eût les râteaux à cheval, c'était les femmes qui ratissaient avec un râteau aussi, un râteau en bois. Principe. Elle faisait passer le foin, elle faisait l'état. L'état, n'est-ce pas ? Maintenant, tout ça se fait avec des presses, n'est-ce pas ?